Mais avant de faire la lecture, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les chrétiens aujourd'hui en France, en 2011, sont en situation de force? Est-ce que vous pensez qu'ils sont en position de force, les chrétiens aujourd'hui en France, en 2011? On vit dans un pays où, d'après les sondages, tenez-vous bien, il y a plus de personnes qui disent être chrétiennes que de personnes qui disent croire en Dieu. Vous comprenez l'absurdité de cette statistique? C'est bizarre, non? Plus de personnes qui disent être chrétiennes que de personnes qui disent croire en Dieu. Et ça, c'est la réalité. Le christianisme ne se porte pas bien en France. Comme je le disais dans une prédication récente, les chrétiens protestants qui croient à l'inspiration divine de la Bible et à son infaillibilité et à son autorité objective en tant que parole de Dieu, ces chrétiens-là représentent moins d'1% de la population. Alors, je répète ma question, est-ce que vous pensez que les chrétiens soient en position de force aujourd'hui en France en 2011? Pas vraiment. Mais qu'est-ce qui pousse les chrétiens à persévérer alors? Si vous êtes croyant cet après-midi, qu'est-ce qui vous empêche de baisser les bras et de rallier le reste du monde? Notre propre Église est née il y a 13 ans à partir de rien, grâce au travail de mon beau-père en particulier, le pasteur fondateur de cette Église, et il était accompagné d'une petite équipe de missionnaires. Et aujourd'hui, 13 ans plus tard, après 13 ans de travail pénible, 13 ans de fatigue, d'épreuves, d'incertitudes, notre Église, vous le voyez cet après-midi, est composée un bon dimanche d'une trentaine de personnes à peu près. Aujourd'hui, c'est un peu moins, il y a pas mal d'absents. C'est décourageant, non? Si vous n'êtes pas croyant, peut-être même que vous trouvez ça ridicule. Pourquoi est-ce que les chrétiens continuent? C'est bizarre. Pourquoi ne pas laisser tomber tout simplement? Eh bien, dans le texte d'aujourd'hui, le peuple de Dieu se trouve aussi dans une situation très, très décourageante. Et je voudrais vous situer un peu le contexte avant de faire la lecture. Ça se passe donc en Palestine, au 8e siècle avant Jésus-Christ, et la nation d'Israël à cette époque-là est divisée en deux royaumes, un grand royaume au nord et enfin, un royaume plus petit au sud. Et c'est dans ce royaume du sud que se trouve Jérusalem, donc la capitale historique du peuple de Dieu. Et c'est à Jérusalem que se trouve le temple, le lieu de culte historique du peuple de Dieu. Et le passage qu'on va lire concerne donc le royaume du sud, ce plus petit royaume où il y a Jérusalem et le temple. Et à cette époque-là, beaucoup de gens dans le peuple sont éloignés de Dieu. Et à la tête du royaume, c'est le royaume de Juda, on l'appelle comme ça, à la tête de ce royaume, il y a un roi qui est très, très, très méchant. Un roi totalement infidèle à Dieu, du nom d'Ahaz. Il a fait construire des statues dans le pays consacrées à des faux dieux. Et il a même offert en sacrifice à ses idoles ses propres enfants. Alors, en guise de châtiment, Dieu va livrer le royaume aux attaques des pays voisins. D'accord? Beaucoup de gens meurent. Beaucoup d'autres sont déportés et le pays est affaibli à tout point de vue, politiquement, économiquement et militairement. Et un historien de l'époque fait le constat suivant. L'Éternel humilia Juda à cause d'Ahaz, le roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda et s'était montré tout à fait infidèle à l'Éternel. Voilà le constat lucide d'un historien qui analyse les faits. Imaginez donc la détresse et le découragement profond des quelques personnes parmi le peuple qui cherchent encore à demeurer fidèles à Dieu. Imaginez leur situation, imaginez leur découragement quand leur roi lui-même, qui occupe le trône du roi David, sacrifie ses propres enfants à des faux dieux. Est-ce qu'ils étaient en position de force, ces quelques croyants qui restaient parmi le peuple? Loin de là, hein. Le peuple de Dieu était tombé si bas que les quelques fidèles qui restaient, eh ben, ils devaient se demander si le plan de Dieu tenait toujours. Ils devaient se demander comment donc le peuple d'Israël allait être ce fameux royaume de sacrificateurs et cette fameuse nation sainte que le peuple était censé être, et notamment auprès des autres nations en tant que lumière des nations. Ils devaient se demander comment est-ce que ça allait bien se réaliser. Comment donc Abraham allait-il, à travers sa descendance, devenir une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre? Comment donc est-ce que ça allait se réaliser? Est-ce que le plan de Dieu tient toujours? Mais le texte d'aujourd'hui rapporte un échange donc entre le prophète Ésaïe et ce fameux roi Ahaz, qui est un ignoble roi. Et ce texte est destiné à réconforter le reste fidèle, ces quelques personnes qui cherchent encore à être fidèles à Dieu. Et ce texte va chercher non seulement à encourager ces quelques personnes-là qui cherchent à être fidèles à Dieu, mais aussi le texte veut persuader ces gens-là que Dieu va bel et bien réaliser son plan, et cela quoi qu'il arrive. Et pour inciter son peuple à la confiance et à la persévérance, Dieu va montrer à son peuple à quel point il s'est engagé à réaliser ses promesses. Et je crois qu'aujourd'hui encore, cet après-midi encore, Dieu veut fortifier notre foi en lui. Il veut nous inciter à la confiance et à la persévérance en dépit des apparences, en dépit du fait qu'on représente moins d'1% de la population. Et pour cela, il veut nous faire contempler à quel point son engagement à réaliser ses promesses est sérieux. Et si nous sommes tantôt découragés, tantôt dans le doute, face aux circonstances que nous traversons, à ces circonstances qui paraissent parfois bien défavorables au plan de Dieu, eh bien je crois que c'est parce qu'en fait, au fond, nous ne mesurons pas vraiment, ou pas assez, le sérieux de cet engagement de Dieu à réaliser son plan. Alors, avant de continuer, j'invite Jonathan à venir lire le texte en question. Il s'agit donc d'Ésaïe chapitre 7, des versets 1 à 16. Au temps d'Ahaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, Retsin, roi de Syrie, partit en guerre avec Péka, fils de Remaliaou, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais il ne put l'attaquer. On fit ce rapport à la maison de David. Les Syriens sont campés en Éphraïm. Le cœur d'Ahaz et le cœur de son peuple se mirent à frémir comme les arbres de la forêt frémissent sous le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Sors donc à la rencontre d'Ahaz, toi, et Shear-Yashub, ton fils, l'extrémité de l'aqueduc du bassin supérieur, sur le chemin du champ du teinturier. Tu lui diras, « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. » Devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie, et du fils de Remaliaou, parce que la Syrie médit du mal contre toi, avec Éphraïm et le fils de Remaliaou qui disent, « Montons contre Juda, nous épouvanterons la ville, nous la battrons en brèche jusqu'à ce qu'elle se rende, et nous établirons un roi au milieu d'elle, le fils de Tabéel. » Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, « Cela ne tiendra pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie, et Retsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm brisé ne sera plus un peuple. Samarie est la tête d'Éphraïm. Et le fils de Remaliaou est la tête de la Samarie. Si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, vous ne serez pas affermi dans votre défense. » L'Éternel parla de nouveau à Ahaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Ahaz répondit, « Je ne demanderai rien. Je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Mais avant que l'enfant sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, le territoire des deux rois, qui t'épouvante, sera abandonné. »
Merci beaucoup. Je vous invite à la prière avant de continuer.
Merci pour ta parole, Seigneur. Et nous confessons que parfois certains textes sont un peu compliqués à comprendre. Et nous te demandons ton aide, par conséquent, Seigneur, l'aide de ton esprit, afin qu'il illumine notre intelligence et que nous comprenions ce que toi tu veux nous dire cet après-midi, et non seulement que nous le comprenions, mais que nous puissions recevoir cette parole dans notre fort intérieur et qu'elle prenne racine et qu'elle porte du fruit. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen.
Amen.
Alors c'est un texte qu'on lit parfois pendant la période de l'Avent, parce qu'il y est question de cet enfant qui va naître, de cette jeune fille qui tombera enceinte, et de cet enfant qui s'appellera Emmanuel. Mais ce texte s'inscrit dans tout un contexte, et je vous invite à regarder un peu le contexte avant d'en venir à ces quelques versets, verset 14 notamment. Et la première chose que Dieu veut faire comprendre à son peuple à travers ce passage, dans les premiers versets, les versets 1 à 9, c'est que parfois, en effet, les circonstances de l'histoire paraissent défavorables, clairement défavorables au plan de Dieu. Mais en réalité, et c'est ça que Dieu veut communiquer à son peuple, rien ne peut contrecarrer ce que Dieu a décidé de faire d'avance. Rien ne peut contrecarrer ses promesses. Alors regardons ce qui se passe plus précisément. Ésaïe nous raconte un épisode du règne d'Ahaz, où deux nations voisines vont se liguer ensemble pour attaquer Jérusalem. Et vous l'avez peut-être remarqué, la fin de l'histoire, l'issue de l'histoire est annoncée dès le départ, au verset 1, mais il ne put l'attaquer. Mais ensuite, Ésaïe va raconter ce qui s'est passé entre-temps, avant la fin. Donc il résume un peu l'histoire au début, et ensuite il rentre dans le détail pour nous raconter ce qui se passe en réalité. Et notamment, ce qu'il nous raconte, c'est que lorsque la nouvelle de cette attaque imminente est parvenue aux oreilles du peuple, ils ont tremblé comme des feuilles, hein, comme les arbres de la forêt frémissent sous le vent. Même Ahaz, cet ignoble roi, ce roi cruel, a tremblé de peur. Et ensuite, Ésaïe est envoyé auprès d'Ahaz avec un message précis de la part de Dieu. Je vous rappelle qu'une des raisons de la grande peur de ces gens, c'est que le pays est déjà très affaibli, donc il est très vulnérable. Mais Dieu, par la bouche d'Ésaïe, a une bonne nouvelle à annoncer. C'est que précisément cette offensive des deux voisins, là, des deux pays voisins, va échouer. Et dans le discours de Dieu qui est relayé par le prophète, il y a une remarque qui est très importante à remarquer et qui explique pourquoi, contre toute attente, Dieu va empêcher cette attaque d'aboutir. Parce qu'on sait très bien, nous, et surtout si on lit le contexte du livre d'Ésaïe, enfin ce qui précède, qu'en fait le royaume de Juda et Jérusalem mérite d'être attaqué, et mérite d'être déporté même, à cause des péchés horribles qu'ils ont commis. Mais il y a une remarque dans la bouche du prophète qui nous explique pourquoi Dieu va s'opposer à cela. Et cette remarque, on la trouve au verset 6. C'est que cette coalition ennemie compte établir un nouveau roi sur Jérusalem. Le fils de Tabéel. Et tout de suite après, Dieu dit « Cela ne tiendra pas, cela n'aura pas lieu », verset 7. Pourquoi ? Eh bien, d'après le verset qui suit encore, on comprend que pour Dieu, ces deux rois étrangers, ennemis du peuple de Dieu, c'est le roi du royaume du Nord, d'une part, et le roi de la Syrie, d'autre part, donc qui complotent, qui se liguent, qui font une alliance pour attaquer Jérusalem, eh bien, ces deux rois n'ont absolument... n'ont absolument rien à faire à s'ingérer dans le plan de Dieu pour Jérusalem, la capitale historique du peuple de Dieu. Et notamment en ce qui concerne le trône et qui doit l'occuper ce trône. Pour Dieu, il est hors de question que des étrangers établissent un roi étranger sur Jérusalem, vous voyez ? Parce que Dieu a fait une promesse au roi David, et ça on le découvre si on lit toute l'histoire d'Israël. Il a fait une promesse au roi David, une promesse qui est répétée à plusieurs reprises dans l'histoire d'Israël, une promesse en vertu de laquelle David ne manquera jamais d'un descendant sur son trône. Voilà ce que Dieu avait promis à David. Le trône historique du roi David, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le trône de Jérusalem. Et quand on considère toute l'histoire de ce royaume, depuis le roi David jusqu'à la déportation des Israélites en Babylone, donc c'est-à-dire pratiquement 5 siècles d'histoire, pendant ces 5 siècles qui nous sont rapportés dans la Bible, il y a toujours eu sur le trône de Jérusalem un roi directement issu de la lignée de David. Donc Dieu n'allait pas tolérer qu'un roi étranger soit intronisé à la place d'un descendant de David, si méchant soit-il ce descendant. Alors pourquoi ce cours d'histoire ? Je sais, c'est un peu fastidieux, mais pourquoi ce cours d'histoire ? Parce que je veux que nous comprenions une chose bien précise, c'est que le plan de Dieu surpasse les vicissitudes de l'histoire. Les vicissitudes, c'est-à-dire les aléas de l'histoire, les difficultés, les contretemps de l'histoire. D'accord ? En l'occurrence, dans ce passage, Dieu veut rassurer son peuple en lui montrant que le dénouement de cette situation fort inquiétante ne peut pas consister en autre chose qu'en l'échec de ces deux rois de leur projet, parce qu'autrement cela contredirait le plan de Dieu qui a été établi d'avance et auquel se réfèrent des promesses que Dieu a déjà faites. Et Dieu ne revient pas sur ses promesses. Dieu ne change pas son plan en cours de route. Alors imaginez qu'à Noël, dans quelques semaines, on vous offre le dernier roman d'un certain auteur de polar que vous appréciez beaucoup.
Vous êtes si content de recevoir ce roman en cadeau que vous sautez de joie, mais en sautant de joie, vous laissez tomber le livre par terre, et celui-ci s'ouvre au dernier chapitre. Et en ramassant le livre, vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer et de lire, même malgré vous, une information très importante dans ce dernier chapitre concernant le dénouement heureux de l'histoire. Évidemment, ça ne va pas vous empêcher de lire le roman, qui consiste d'ailleurs en une histoire passionnante, pleine de toutes sortes de rebondissements. L'auteur, voyez-vous, est un véritable maître du suspense, et vers le milieu du livre, le héros du récit se retrouve dans une situation absolument désespérée. À ce moment-là de l'histoire, l'auteur tient tous ses lecteurs en haleine. Qu'est-ce qui va se passer ? Tous ses lecteurs sont en haleine, sauf un, vous. Pourquoi ? Parce que vous savez et vous avez cette information cruciale concernant le dénouement de l'histoire. Et vous savez très bien que quoi qu'il arrive dans le récit, ce dénouement ne va pas changer. Le dernier chapitre ne va pas être réécrit en cours de route. Et par conséquent, au fond, vous ne vous inquiétez pas trop pour le héros du roman. Dans le texte qui nous concerne ici, c'est un peu la même chose, hein. Dieu révèle à son peuple le dénouement heureux de cette situation désespérée. Un dénouement qui est conforme à son plan et à ses promesses. Et ce plan ne va pas changer quoi qu'il arrive. Donc celui qui a suffisamment confiance en Dieu, à l'écoute des paroles d'Ésaïe, celui qui reconnaît que Dieu est l'auteur souverain, non pas d'un roman, mais de l'histoire des hommes, eh bien celui-là ne va pas douter de la réalisation du plan de Dieu. Il sait que le dernier chapitre ne va pas être réécrit en cours de route. Pourquoi ? Parce que le plan de Dieu surpasse les vicissitudes de l'histoire. Autrement dit, le croyant tient bon en dépit de toutes circonstances qui semblent défavorables. Pourquoi ? Parce qu'il croit au plan de Dieu. Il croit aux promesses de Dieu. Il croit à la capacité de Dieu de réaliser tout ce qu'il a prévu de faire en dépit des apparences, en dépit de l'opposition, quelle qu'elle soit. Et c'est exactement le sens de ce que Dieu dit à la fin du verset 9, quand il dit « Si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, vous ne serez pas affermi dans votre défense. » Mais en fait, dans votre confiance et dans votre défense, ça n'apparaît pas dans le texte original. Donc, littéralement, c'est écrit « Si vous n'êtes pas ferme, vous ne serez pas affermi. » En fait, c'est une autre façon de dire ce qu'un autre prophète a dit dans des circonstances assez similaires, mais un peu plus tard, à une autre époque, lorsque le prophète Habacuc a dit « Le juste vivra par sa foi. » Le juste vivra par sa foi. Autrement dit, le salut du croyant, sa confiance, sa persévérance viennent du fait de croire à ce que Dieu a promis. Le salut du croyant, sa confiance, sa persévérance viennent du fait de croire à ce que Dieu a promis. Donc vous voyez que Dieu veut rassurer son peuple en lui montrant ou en lui rappelant peut-être à quel point il s'engage à réaliser son plan en dépit de tout. Et donc dans un premier temps, pour souligner à quel point Dieu s'engage à réaliser son plan, eh bien le prophète Ésaïe montre au peuple que le plan de Dieu surpasse les vicissitudes de l'histoire. Est-ce que vous, mes amis, cet après-midi, vous êtes convaincus dans votre fort intérieur que ce que Dieu a promis de faire, il a aussi la puissance de l'accomplir ? Est-ce que vous en êtes convaincus dans votre fort intérieur, et que non seulement Dieu a la puissance de l'accomplir, mais qu'en plus il est fidèle et il l'accomplira, il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis, malgré tout ce qui semble aujourd'hui peut-être s'opposer à son plan. Et donc le premier remède à notre découragement, c'est tout simple, c'est d'ouvrir la Bible et d'y relire les promesses que Dieu a faites concernant le dénouement de votre vie et concernant le dénouement de l'histoire des hommes. Il faut prendre le temps de le faire pour se remémorer les promesses de Dieu en sachant qu'il a la capacité d'accomplir ce qu'il a promis et qu'il est fidèle et ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est que Dieu ne nous fait pas seulement des promesses, mais il ajoute à ces promesses pour attester leur fiabilité. Et il le fait en dépit d'eux, mais peut-être aussi à cause de l'incrédulité des hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe au verset 10 à 13? Ce qui se passe au verset 10 à 13,
J'espère que vous avez le texte sous les yeux, ça vous aidera à comprendre. C'est absolument remarquable. Non seulement Dieu vient d'annoncer une bonne nouvelle à un roi qui est absolument ignoble et qui ne mérite pas d'être délivré de ses ennemis, mais en plus, Dieu va inviter Ahaz à demander un signe, n'importe quel signe, même le plus miraculeux, un signe en bas, sur la terre ou en haut dans le ciel, peu importe, demande ce que tu veux Ahaz, en guise d'attestation de la fiabilité de ce que j'ai promis. Vous vous rendez compte de ce que Dieu est en train de faire avec un roi qui mérite d'être frappé par la foudre au moment même où Dieu lui parle? En fait, Dieu est prêt à mettre un coup de tampon prodigieux à la parole du prophète Ésaïe, un peu comme une certification de conformité qu'on va chercher à la mairie, en tout cas autrefois qu'on allait chercher à la mairie. Cette proposition de Dieu est vraiment extraordinaire, parce que, rappelez-vous, Ahaz est un très très méchant roi. Un très très méchant roi. Et donc cette proposition de Dieu révèle son incroyable bienveillance et sa divine patience face à l'infidélité de son peuple, qui est ici représenté par son roi. Alors, imaginons un peu, Dieu aurait pu se contenter de simplement intervenir dans l'histoire pour empêcher l'invasion, et comme ça, il aurait préservé le trône de Jérusalem. Et puis, il n'aurait rien dit. Il n'aurait rien communiqué à son peuple. Non, Dieu ne se contente pas d'intervenir, il intervient, mais avant, il en parle, et il s'adresse à son peuple pour lui faire une promesse. Et puis, il aurait pu se contenter de faire une promesse. Non, Dieu ne se contente même pas de faire une promesse. Il veut ajouter un signe pour attester la fiabilité de sa promesse. Vous voyez la bonté et la patience de Dieu qui supporte l'incrédulité des hommes. Dieu qui tient compte de cette incrédulité et qui cherche même à y remédier par le moyen donc d'une parole d'une part, mais aussi d'un signe. Mais la réponse d'Ahaz, au verset 12, la réponse d'Ahaz révèle son incroyable présomption. Qu'est-ce qu'il dit ? Non merci. Non merci Dieu, ça va, j'en ai pas besoin. Dans ce verset, c'est pas du tout de la piété, ce n'est pas du tout la foi d'Ahaz qui serait là, non Seigneur, j'ai suffisamment foi dans ta parole, j'ai pas besoin d'un signe. Merci Seigneur. Non, ce n'est pas de la piété qui est révélée ici, mais de l'orgueil. En fait, Ahaz se fiche royalement, c'est le cas de le dire, de la parole du prophète Ésaïe. Il s'en fiche royalement. Ahaz a déjà des projets, en fait, pour essayer d'endiguer les attaques de ses ennemis. Et si on lit le reste de l'histoire, on découvre que les projets d'Ahaz consistent à quoi ? Consistent à dépouiller le temple de Dieu de tout ce qui est précieux à l'intérieur et de l'offrir à un autre roi païen, cette fois le roi d'Assyrie, d'une autre puissance montante à l'époque, pour acheter sa protection. Et si on lit encore plus loin, on découvre que même cet effort-là, parce qu'il va le faire, même cet effort-là ne lui servira de rien, parce qu'en fin de compte, le roi d'Assyrie, va se retourner même contre Ahaz, il va garder les richesses qui lui ont été offertes, et il va se retourner quand même contre Ahaz. Bref, ce petit échange entre Ésaïe et Ahaz, dans ces versets 10 à 13, est destiné à souligner l'incroyable patience de Dieu face à l'incroyable incrédulité du peuple. Malgré cette incrédulité, et en même temps à cause de cette incrédulité, Dieu propose un signe pour attester la fiabilité de son plan et de sa promesse. Alors si vous êtes un homme, et si vous êtes comme moi, il y a un domaine de votre vie où votre orgueil remonte facilement à la surface. C'est quand vous cherchez à vous orienter en voiture. Si vous êtes comme moi, avant de partir de chez vous pour vous rendre à cette destination où vous n'avez jamais été auparavant, donc vous ne connaissez pas le chemin, alors peut-être que vous allez consulter un plan sur Internet. C'est facile à faire aujourd'hui. Et puis au moment de partir, votre épouse vous dit « Chérie, tu veux pas imprimer le plan ou prendre une carte avec toi ?» Et là, la réponse mémorable « Non merci, c'est bon, j'en ai pas besoin, je vais trouver. » Ah. Eh bien, si vous êtes un homme, donc, et si vous êtes comme moi, peut-être que vous n'êtes pas comme moi, eh bien, vous savez comment ça se termine, au moins une fois sur deux. Allô, chérie, je suis complètement perdu. Je suis dans la rue Jean Calvin. Est-ce que tu peux regarder sur Internet, s'il te plaît, et m'indiquer le chemin à prendre pour aller à la rue Théodore de Bèze ? Et pourtant, la carte, vous auriez pu la prendre avec vous, ça ne vous aurait pas coûté plus cher. Mais vous voyez, c'est un peu la même chose dans le texte.
En plus de sa promesse, Dieu propose un signe pour attester la fiabilité de sa promesse et pour remédier à l'incrédulité des hommes. Mais Ahaz, lui, pense pouvoir se débrouiller tout seul, et c'est de la présomption. Il pense pouvoir se passer de la carte, si j'ose dire, ou plus précisément de ce signe supplémentaire qui ne coûte pas plus cher, ce signe plus supplémentaire que Dieu lui propose pour son bien et pour le bien du peuple. Quelle présomption, quelle impudence, quelle effronterie que de dire à Dieu qui nous propose un signe, « Non merci, ça va, on n'a pas besoin. » Alors certes, cette réponse d'Ahaz ne va pas contrecarrer le plan de Dieu. Je l'ai dit au départ, rien ne va contrecarrer le plan de Dieu. Et le plan de Dieu supporte ce genre d'incrédulité. Mais il y a là quand même un avertissement concernant notre propre suffisance aujourd'hui en tant que croyants. Quel accueil réservons-nous aux signes que Dieu nous donne dans sa bienveillance et dans sa patience pour attester la fiabilité de ses promesses? Alors attention, parce que je ne parle pas de signes et de prodiges comme ceux qui étaient faits par la main des apôtres dans le livre des Actes et qui, entre parenthèses, ont déjà rempli leur fonction particulière, qui servait à attester la véracité de leurs enseignements aujourd'hui contenus dans le Nouveau Testament. De quoi est-ce que je parle? Je parle des signes ordinaires que Jésus a institués pour l'Église et qui sont le baptême et la Sainte Cène. Par le moyen de ces deux sacrements, Dieu veut remédier à notre incrédulité, je le rappelle souvent le dimanche. Il veut sceller ses promesses devant nos propres yeux. Si vous êtes chrétien, par conséquent, vous ne pouvez pas dire à Dieu « Non, merci, ça va. C'est sympa de me proposer d'être baptisé, mais franchement, je n'en ai pas besoin. Ma foi suffit à être un chrétien. » La Sainte Cène, c'est une bonne idée, oui, bon, c'est sympa, mais bon, je peux m'en passer. Et ça, mes amis, en fait, c'est de la présomption, parce que Dieu nous les offre, ces signes. Les sacrements sont là précisément pour nous conforter dans l'assurance que Dieu tient parole et que son plan se réalisera en dépit de tout. Donc un deuxième remède à notre découragement en tant que croyants consiste à nous appuyer sur ces signes que sont, par excellence, le baptême et la Sainte Cène, notamment la Sainte Cène que nous prenons chaque dimanche dans notre Église. Pourquoi? Parce que ces signes visibles et tangibles nous sont donnés comme attestation de la part de Dieu de la fiabilité de ses promesses. Ce ne sont pas des choses à négliger. Mais ce qu'on va voir maintenant et dernièrement, c'est que non seulement Dieu fait des promesses concernant la réalisation de son plan, et non seulement il propose des signes en guise d'attestation de la fiabilité de ses promesses, mais en plus, il va donner le signe par excellence de son plein engagement dans la réalisation de ce qu'il a promis. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé lorsqu'on a lu le verset 14. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti lorsque nous avons lu ce verset où il est dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais ce n'était probablement pas la stupéfaction que les premiers destinataires de ces paroles ont dû ressentir en entendant ou en lisant les paroles d'Ésaïe. Le contenu de ce verset est absolument ahurissant, mais avant d'y venir, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu, par l'intermédiaire d'Ésaïe, est en train de saisir l'occasion de cet échange avec Ahaz pour faire une déclaration beaucoup plus large et englobante au sujet de tout son plan rédempteur pour le monde, et pas seulement concernant la situation spécifique d'Ahaz. Il élargit tout d'un coup la perspective, et il saisit cet échange comme une occasion de le faire. Et donc, ce signe par excellence dont il va être question ne concerne pas les promesses particulières faites à Ahaz à ce moment précis de l'histoire et au peuple, dans la situation particulière qui les concerne, mais ce signe concerne les promesses liées à l'ensemble du plan de Dieu pour son peuple et pour le monde. Rappelez-vous, hein, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a à ce moment-là dans le peuple, qui globalement s'est éloigné de Dieu, quelques personnes encore, je ne sais pas combien, mais un reste en tout cas, qui cherchent à demeurer fidèles à Dieu et qui se demandent si le plan de Dieu tient toujours, qui se souviennent des promesses qui ont été faites par l'intermédiaire de Moïse, notamment au peuple au pied du mont Sinaï, et qui ont été faites à Abraham longtemps auparavant. Ils se souviennent de cela, ils se demandent si ça tient toujours. Et vu ce qui vient de se passer avec Ahaz, où Ahaz refuse même le signe que Dieu veut donner pour attester de la fiabilité de sa promesse, ils doivent se demander, mais mince alors, est-ce que la patience de Dieu est définitivement lassée? Est-ce qu'il va laisser tomber son plan? Est-ce qu'il va changer la fin de l'histoire? Est-ce qu'il va réécrire le dernier chapitre? Mais non. Dieu dit qu'il va quand même donner un signe extraordinaire. Et en quoi consiste-t-il ce signe? Il consiste tout d'abord en ce qu'une jeune fille célibataire va tomber enceinte. Et deuxièmement, en ce que cet enfant s'appellera Emmanuel. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne voit pas ce qu'il y aurait de miraculeux à ce qu'une jeune fille célibataire tombe enceinte. Mais, malheureusement, mais il faut comprendre une chose, c'est que pour le prophète et pour ses destinataires à cette époque, cette expression « jeune fille » qui désigne une jeune fille célibataire, une jeune fille non mariée, cette expression implique par définition une vierge. Ça implique par définition une vierge. C'est comme si je vous disais « quel prodige ! Voici que le SDF s'est acheté une Ferrari. » Vous voyez le parallèle ? Pourquoi serait-ce un miracle ? Parce qu'un SDF implique par définition quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc « jeune fille » dans ce texte signifie presque comme un synonyme une femme vierge. Et donc on comprend pourquoi le fait qu'elle tombe enceinte relève d'un miracle absolument extraordinaire. C'est un miracle, c'est surnaturel, ce qui est annoncé ici. Mais il y a une deuxième chose tout à fait ahurissante, c'est le nom qu'on donnera à l'enfant qui va naître. Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous » ou plus précisément « Dieu uni à nous ». Et à cette époque, vous savez, le nom qu'on donnait à un enfant avait une très très grande signification. Et nous, aujourd'hui, on ne mesure pas vraiment la portée de cette parole du prophète concernant l'enfant à naître. Il est en train de décrire, il n'est pas juste en train de lui donner un nom, il est en train de décrire son identité. Alors, je n'ai pas vraiment le temps d'entrer dans le détail ce soir, mais il suffit de savoir que la parole du prophète suggère une idée tout à fait choquante et scandaleuse, à savoir la suivante, que Dieu va revêtir la nature humaine. Que Dieu va revêtir la nature humaine. Déjà 8 siècles avant la naissance de Jésus, le prophète est en train de suggérer que Dieu en personne va revêtir la nature humaine et naître d'une naissance absolument miraculeuse parmi nous. Et c'est un peu technique, je m'excuse, mais au verset 15, Ésaïe est en train de confirmer cette idée en décrivant en toutes lettres le fait que cet enfant va faire l'expérience normale d'un enfant qui grandit humblement dans la dépendance de ses parents jusqu'à atteindre l'âge de raison. Vous voyez ce qu'il dit au verset 15 ? Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Pour nous, aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. En fait, c'est tout simple. Il est en train de décrire l'expérience normale d'un enfant qui grandit à cette époque. On le nourrit, quand il est petit, de crème et de miel, et il va arriver à un âge où il va avoir le discernement, voyez, pour savoir refuser ce qui est mauvais, choisir ce qui est bon, c'est-à-dire l'âge de raison. C'est comme si aujourd'hui on disait, cet enfant va manger des petits pots et prendre des biberons, voilà, jusqu'à ce qu'il ait grandi assez pour marcher tout seul, et voilà. Vous comprenez ? Donc il est juste en train de décrire l'expérience normale d'un enfant de cette époque, d'un enfant, d'un être humain de cette époque. Pourquoi est-ce qu'il ajouterait ce verset 15 si l'enfant dont il était question était juste un enfant comme les autres ? C'est précisément parce qu'il s'agit, et il est en train de suggérer l'idée, que Dieu en personne va revêtir une nature humaine. Et il ne va pas le faire à moitié. Il va vraiment devenir un enfant nourri de petits pots et de biberons, et qui va grandir jusqu'à l'âge de la raison, comme n'importe quel autre enfant, dans la dépendance à ses parents ou à ses nourrices. Vous voyez ? Combien c'est choquant ce qu'il est en train de dire là, le prophète. Il y a donc un contraste choquant, scandaleux, entre le caractère divin de cet enfant et le caractère humble de sa condition humaine. Et enfin, désolé, c'est toujours un peu technique, mais c'est pour vous expliquer ce qui se passe au verset 16. Et bien ensuite, le prophète va profiter de cette description de l'évolution normale d'un enfant pour revenir à la situation particulière du roi Ahaz et du peuple, à ce moment précis de l'histoire, et là il leur dit que sous peu les deux rois qui se sont ligués ensemble pour attaquer Jérusalem vont subir une cuisante défaite. Voici ce qu'il dit. Mais avant que l'enfant sache refuser ce qui est mauvais, il faut comprendre que là, il ne désigne pas le même enfant. Il désigne les enfants en général. Il dit donc, avant que les enfants qui aujourd'hui, maintenant, existent, avant que eux atteignent l'âge de la raison, c'est-à-dire sous quelques années, pas plus, d'ici quelques années, pas plus, eh bien, les deux rois qui t'épouvantent seront vaincus. Donc, il revient à la situation présente. Et pour l'anecdote, c'est effectivement la puissance assyrienne qui va s'attaquer à ces deux rois qui étaient ennemis d'Ahaz. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi, hein, bon, peu importe, vous réécouterez sur le site internet de l'Église, il y a des choses que vous avez ratées, mais tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que Dieu atteste son engagement dans la réalisation de son plan pour l'humanité par un signe prodigieux qui consiste en la venue de Dieu en personne parmi les hommes. Alors essayez d'imaginer le chef d'une petite entreprise qui signe des contrats avec des clients et qui remplit par conséquent son carnet de commandes. Arrive un jour où l'entreprise est un peu pressée par le temps et il ne reste que quelques jours pour pouvoir honorer une certaine commande due à un gros client. Arrivé au bureau ce matin-là, le chef d'entreprise découvre qu'un de ses employés est en arrêt maladie. Mince, pas de chance. Un autre, tiens, a pris un congé paternité suite à la naissance de son bébé. Un autre est parti en vacances. Et le dernier, eh ben, il est en grève. Aïe, il n'y a plus qu'une chose à faire. Le chef d'entreprise enlève sa cravate, il enfile le bleu de travail, il se retrousse les manches et il descend à l'atelier réaliser lui-même la commande pour son client. Ce que le prophète est en train de suggérer ici, et ce que le reste de la Bible confirme d'ailleurs, c'est un peu la même chose concernant Dieu. Devant l'indisponibilité, ou plutôt l'incrédulité du peuple, Dieu enlève sa cravate, il enfile le bleu de travail, hein, il se retrousse les manches et il descend à l'atelier, c'est-à-dire auprès des hommes, pour faire le travail à leur place. Et en effet, en la personne de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme en même temps, né de la Vierge Marie, Dieu va grandir humblement comme n'importe quel autre enfant à l'exception du péché. Il va obéir parfaitement à la loi à la place de son peuple et il va expier les péchés de son peuple à la place de son peuple. En fait, Jésus va prendre la place du peuple, mais pas seulement du peuple, il va prendre la place des prophètes, des prêtres, du temple, des sacrifices et même du roi. Jésus va tout réaliser lui-même jusqu'à mourir lui-même au profit de son peuple et ressusciter comme ultime garantie de sa capacité à réaliser tout ce qu'il a promis à ceux qui se confient en lui. Est-ce que vous voyez donc, et j'essaie de conclure rapidement, je sais que j'ai été long, est-ce que vous voyez à quel point Dieu s'est engagé dans la réalisation de son plan ? Un plan bienveillant dont le but est la rédemption des hommes. Quand vous êtes découragés, mes amis, dans votre marche chrétienne, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis régulièrement découragé dans ma marche chrétienne. Relisez donc la Bible et voyez quelles sont les promesses que Dieu a faites à ceux qui se confient en lui. Appuyez-vous sur votre baptême et sur la Sainte Cène en tant que signe et en tant que sceau que Dieu a institué pour attester la fiabilité de ses promesses. Et contemplez la croix, surtout contemplez la croix. Dieu est venu en personne, il s'est retroussé les manches en la personne de son Fils Jésus-Christ. Il a renoncé un moment à sa gloire au ciel, il s'est humilié, il a tout accompli à votre place pour que vous n'ayez plus qu'à vous reposer en lui. Pensez-vous que les chrétiens sont en position de force aujourd'hui en France en 2011 ? Peu importe en fait, parce que Dieu est en position de force et on peut être sûr qu'il l'est quand on considère à quel point il s'est engagé à réaliser ses promesses. Le sérieux de l'engagement de Dieu en faveur de tous les hommes, les femmes et les enfants qui se confient en lui, doit nous inciter à notre tour à la confiance et à la persévérance, quelles que soient les circonstances particulières que nous traversons. Oui, l'opposition est parfois impitoyable. Oui, les épreuves sont parfois terribles. Oui, nous faisons parfois l'expérience d'une véritable sécheresse spirituelle dans notre vie chrétienne. Mais comme le dit l'apôtre, que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il aussi tout avec lui par grâce ? Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation ou l'angoisse ? Ou la persécution ? Ou la faim ? Ou le dénuement ? Ou le péril ? Ou l'épée ? Et un peu plus loin, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Amen.